Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Littérature et bière glacée.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grande Fleur Café par Hugues Robert.
Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir au Grande Fleur Café. On continue en fait comme les semaines précédentes sur notre thème du moment qui est celui de l'écriture au sens de la correspondance et plus précisément de se remettre à écrire, puisque par rapport aux différentes correspondances, correspondances d'écrivains, correspondances techniques, fiction épistolaire, on en a abordé un certain nombre, on a pas mal ri, et puis il y avait donc ce concours dont on va nous dire quelques mots, ce concours qui a alimenté Grand Contrôle pendant plusieurs semaines, et donc on a reçu beaucoup de lettres sur ce thème un peu bizarre de se remettre à écrire. Donc tu vas nous en dire plus.
Mais bien sûr, bonsoir Hugues, ravi de m'incruster dans le Grand Fleur Café, c'est un grand plaisir d'être ici. Pourquoi j'ai décidé de me remettre à écrire, c'est effectivement le thème de ce concours de lettres qui était organisé ici à Grand Contrôle. Vous êtes nombreux à y avoir participé, effectivement, on a reçu de nombreuses lettres. Parmi elles, non pas trois, mais quatre sont sorties du lot. On a quatre personnes sur le podium, dont une présente ici que j'ai le plaisir d'accueillir, Sophie Maldag.
Merci.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Et merci d'être venue nous rejoindre ici sur ce plateau. Estelle Charmet également, qui était ex aequo avec vous en troisième position. Odette Cobana, que j'ai eu également au téléphone et qui aurait beaucoup aimé être parmi nous, donc on pense à elle, on l'embrasse. Bravo pour la deuxième place, Odette Cobana, et Sylvie Bird-Boutet, premier prix. Voilà, le petit oiseau qui s'est envolé à la première place, Hugues.
Voilà, donc c'est effectivement, c'est assez frappant de voir sur un thème comme se remettre à écrire. On aurait pu, non pas craindre, mais en tout cas, il y aurait une certaine homogénéité que les gens finalement interprètent cette parole en fait d'une façon un peu similaire. Et en fait, pas du tout. On a eu des choses extrêmement différentes, des choses, ma foi, assez astucieuses, assez belles, assez émouvantes.
Et vous étiez d'ailleurs, Hugues, dans le jury.
Oui, tout à fait. Oui.
Avec Nicolas Domenac, Lorraine Malka, Élise Nebou et Mathilde Giraud.
Voilà, et en fait, évidemment, tous les membres du jury n'ont pas été d'accord sur l'ensemble des textes, sinon ça aurait été quand même un peu bizarre. Mm-hmm. Mais sur les lauréats, en fait, donc sur les quatre premiers, il y avait une convergence quand même très forte. Même si après, chaque membre du jury avait éventuellement sa petite bizarrerie. Moi, j'en avais une qui m'avait beaucoup fait marrer, mais je crois que j'étais vraiment le seul, donc je n'en parlerai pas. Parce que c'était un texte très bref, très lapidaire, mais qui était presque qui avait pris la contraposée en fait du sujet proposé, puisqu'il dénonçait en fait la suprématie de l'écriture par rapport à l'oralité.
Ça peut être intéressant aussi d'avoir un texte court, parce que c'est vrai que globalement les lettres étaient assez longues.
Enfin, une chose qui me fascine, c'est qu'effectivement quand on écrit une lettre dans ce genre de situation, donc pour un concours littéraire. Et donc ça, j'aimerais bien, si Sophie accepte de nous répondre, qu'est-ce qu'on visualise comme interlocuteur, en fait ? Parce qu'à qui on l'écrit exactement, cette lettre ?
Bah moi, j'ai écrit au jury.
Oui,
donc, j'ai marqué
cher membre du jury.
Je me suis pas dit que j'allais écrire à quelqu'un en particulier, en fait.
Je vous propose justement d'écouter un extrait de la lettre de Sophie Maldag.
Cher membre du jury, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé écrire et recevoir des lettres. Piètre sportive, mes années scolaires ont été couronnées de succès grâce aux lettres de l'alphabet. Hein. J'étais une jongleuse de mots, je lançais les lettres en l'air. Elles dansaient et s'emmêlaient pour finir par se coucher sur le papier, dans des cahiers ou au dos de cartes postales. Il y en a qui taquinent le gardon, moi, je taquine le crayon. Vous me demandez pourquoi j'ai décidé de me remettre à écrire, à bien y réfléchir. Je n'ai jamais vraiment arrêté.
Voilà, donc c'est la voix de Bénédicte Fischer qu'on a entendue à l'instant. Des lettres à retrouver dans leur intégralité sur notre plateforme, sur tous les réseaux sociaux évidemment, SoundCloud, Ocha, également sur Spotify par exemple, ou Deezer. Vous pouvez réécouter ces lettres, n'hésitez pas. Sophie, vous évoquez la carte postale, un peu par opposition à la technologie.
En fait, je trouve que c'est super émouvant quand on reçoit une lettre ou une carte postale par rapport à un SMS parce que ça implique des sacrifices et un don de la personne en fait. Parce que la personne a pris, elle a été acheter une carte postale, elle l'a écrite, elle a été acheter un timbre, elle s'est déplacée jusqu'à une boîte postale.
J'ai une question par rapport à ça. Moi, quand j'envoie une carte postale, aujourd'hui, j'utilise une application mobile pour le faire. Est-ce que vous pensez que c'est incompatible ? Parce que donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, il y a plusieurs applications qui existent. On prend une photo, ça peut être une photo de soi, ça peut être une photo de notre voyage, par exemple. Et puis, on va écrire depuis son mobile la carte postale qui va être écrite avec une police qui va donner l'illusion d'une écriture manuscrite. Et cette carte va, par contre, véritablement être postée et reçue par son destinataire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce concept ?
Enfin, déjà, je n'avais jamais entendu parler de ça me fait doucement rire. Je sais pas. Je sais pas si je reçois quelque chose comme ça, je serais contente qu'on ait pensé à moi, mais je me dirais que c'est quand même de la facilité.
Parce que pour vous, ce qui est important, c'est de poser le crayon sur le papier ou c'est l'intention d'écrire ?
Les deux.
Les deux. Les deux vont de pair pour vous.
C'est marrant parce qu'il y a quelques romanciers, en fait, c'est sur la période assez récente, hein, alors que bon, l'évolution du phénomène courrier et le fait même que se pose maintenant la question de se remettre à écrire, puisque ça n'est effectivement plus très naturel, comme on vient de nous le voir, puisqu'on va écrire des cartes postales électroniques le cas échéant. Il y a des romanciers qui se sont attachés ces dernières années à justement essayer de sentir comment le fait épistolaire en fait a évolué, et est-ce qu'effectivement les technologies l'ont modifié en profondeur, ou est-ce qu'au fond le contenu, l'acte d'écrire, lui, n'a pas tant varié que ça, donc en se détachant de sa forme physique. Et je pense à l'excellent La Toile de Sandra Lucbert, donc, qui est paru il y a maintenant un peu plus de 2 ans, qui, dans un cadre assez particulier, celle d'une entreprise de haute technologie, d'influenceurs dans le milieu de l'art contemporain, a en fait, ouvertement, elle s'en réclame, elle s'est inspirée de la mécanique des liaisons dangereuses de Coderlo Delclos pour en faire en fait une actualisation tenant compte des médias actuels et du fait que, alors, il n'y a pas un seul échange de lettres papier dans ce roman, mais il y a en revanche des dizaines de mails, des dizaines de postes sur des réseaux sociaux ouverts, des dizaines de gazouillis sur d'autres types de réseaux sociaux, des groupes de discussion fermés, des groupes de discussion ouverts. Et en fait, il y a toute une multiplication de l'échange qui, jadis, fut uniquement épistolaire, ou l'était uniquement soit directement oral, soit épistolaire, et qui prend en fait une espèce de gradation assez sophistiquée, dont effectivement l'incarnation à la fin reste la lettre adressée à une personne, alors, qui n'est pas la lettre ouverte, par exemple, mais vraiment adressée à une personne, même si là, la lettre de Sophie Mazdak s'adressait à plusieurs personnes, puisqu'il y avait plusieurs membres du jury.
Qu'est-ce qui est important, Sophie, pour vous dans cette lettre ? Qu'est-ce que vous aviez envie de partager ?
En fait, moi, j'écris depuis toujours. J'ai jamais arrêté d'écrire parce que j'adore ça. C'est un peu, pour moi, c'est cathartique. Donc, dès que je vais mal, dès que je vais bien, enfin, j'écris tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois que ça fait 26 ans que j'écris, en fait. Parce que j'ai retrouvé un ancien, un poète, je crois que j'étais en CP, sur un papier fax que j'avais fixé à ma... Enfin, c'est un truc bidon qui part de la pluie et du beau temps, mais...
Le fax, quand même.
Une seconde de silence pour le fax.
j'ai toujours écrit, et j'écris dans des cahiers, j'écris des poèmes, j'écris des scénarios. Enfin, j'ai fait des études pour être scénariste, en fait. Et je collectionne les cartes postales qu'on m'envoie.
Donc, c'est là, ce que vous dites dans votre lettre, d'ailleurs.
Que les cartes postales qu'on m'envoie. Je ne vais pas acheter des cartes postales pour ma collection, en fait. Ouais. Du coup, je suis très triste, en fait, de ne plus recevoir de lettres.
Ça se perd, les cartes postales, je trouve.
Parce que les mails, quand on m'en envoie, les SMS, je les supprime. Je garde pas.
Ça dépend. Moi, je garde les mails. Moi, ça me dérange pas forcément, personnellement, le format en fait d'envoi, du moment que l'intention est là. Voilà, chacun son point de vue. Je comprends qu'on puisse être attaché à la texture du papier, à l'odeur, au stylo, à tout ça. Et puis c'est toute une époque aussi qui se transforme.
Après, je suis très contente quand je reçois un SMS d'un ami, mais je ne vais pas garder le SMS pendant des mois. Il va rester 2 jours. Alors qu'une carte postale, je la garde jusqu'à la fin.
Une carte postale envoyée depuis une application, on peut la garder quand même.
Sûrement, j'en ai jamais reçu, enfin je crois pas.
Mais une chose fascinante avec les cartes postales, je m'en aperçois en discutant avec vous, c'est qu'effectivement, en quelques dizaines d'années, en fait, alors bon, c'est un changement de technologie qui est plus global, qui va au-delà de la carte postale, même si l'excellent Sébastien Lapaque a écrit une théorie de la carte postale il y a 3 ans, qui est extrêmement intéressante, parce que justement, la carte postale n'est pas la lettre, c'est quelque chose d'un peu différent, c'est une forme très particulière, justement, d'écriture. Il y a ce choix, effectivement, comme vous l'indiquiez, d'un visuel. Mais je pensais, en fait, à un souvenir d'enfance que, quand j'étais gamin, enfin, et même adolescent, en vacances avec les parents, il y avait la cérémonie, effectivement, des envois de cartes postales. Donc, on achetait des dizaines de cartes postales et on arrosait toute la famille avec des petits mots qui étaient une petite corvée pour les enfants, il faut bien l'avouer, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va mettre la même chose, etc. Mais en tout cas, on le faisait. Et quand, quelques années plus tard, donc, j'ai essayé probablement par automatisme et par nostalgie non avouée de faire un peu la même chose avec les miens, là, les résistances étaient devenues bien supérieures. Parce que, quoi, papa, on n'écrit jamais de cartes postales ou de lettres. Oui. Pourquoi on ferait ça? Parce qu'on est en vacances, ça va pas. Et là, je me suis aperçu, là, il y a un problème d'obsolescence sociotechnique, en fait, qui se vérifie dans le quotidien. Et donc, il y a bien effectivement un acte conscient et assez fort de vouloir perpétrer, parce que bon, c'est
aussi
un aspect presque délictuel. Mais il y a cet aspect de nostalgie que j'aime beaucoup, moi, c'est en revanche, qui devient presque poétique, c'est quand la carte postale a finalement perdu son destinataire. Et donc, vous le disiez, c'est pas dans l'optique de faire une collection de cartes postales, mais je trouve qu'il y a un côté à la fois incroyablement émouvant et en même temps très poétique quand, dans des bacs dédiés en fait aux cartes postales, on trouve donc non pas des cartes postales vierges qui n'ont jamais servi, mais des cartes postales qui ont été utilisées, qui ont été postées, et où on trouve des mots incompréhensibles pour beaucoup d'entre eux, et on ne peut pas s'empêcher de rêver en fait à quel était le contexte de cette carte. Enfin, il y a une espèce de chose mystérieuse qui s'en dégage. Et je me dis qu'effectivement, quand vous écrivez des vraies cartes postales à des gens, il y a effectivement ce côté. Qu'est-ce que ça pourrait dire pour quelqu'un qui ne serait pas le destinataire? Enfin, est-ce qu'il y aurait une espèce de poésie qui s'en dégagerait?
Moi, je ne me suis jamais posé la question, mais c'est vrai qu'un jour, en Vendée, j'ai trouvé dans il y avait un vide-grenier, j'ai trouvé une carte postale de Montpellier, mais vraiment, pendant la guerre, donc vraiment, j'ai fait mes études à Montpellier, donc j'ai acheté cette carte postale. Et c'était marrant parce que c'était quelqu'un qui parlait de la Normandie. Mais mon père est originaire de la Normandie. Et du coup, je me disais, mais elle m'a suivi, cette carte postale, parce qu'elle est envoyée c'est une carte postale d'un quartier de Montpellier, envoyée pendant la guerre, et qui parle de la Normandie, et que je retrouve en Vendée. C'est un peu. Après, j'ai pas essayé de savoir qui étaient les personnes, mais j'ai trouvé ça marrant, en fait.
Et c'était bien écrit?
Oui, je trouve que les gens écrivaient très très bien. Les écritures étaient toujours assez jolies et stylisées.
Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a un côté, il y a quelques années, il y avait déjà un côté obligation dans l'écriture d'une carte postale. On se sent un peu obligé de l'écrire, mais on n'a pas forcément envie, comme vous le disiez, qu'on a peut-être juste envie de profiter de ses vacances. Mais on se sent obligé d'écrire aux autres. Il y a peut-être un côté comme ça, par opposition au côté poétique, de l'envie, la vraie envie d'écrire à quelqu'un.
Mais c'est vrai que moi je suis sensible à ce que disait Sophie Meldagle, ce côté, il y a une intention. Alors cette intention, elle prend la forme effectivement de la plume, du feutre, du stylo, du stylobime, en tout cas de l'écriture manuscrite, même si effectivement il y a des polices qui limitent de plus en plus efficacement l'écriture manuscrite. Mais il y a ce côté, c'était choisir effectivement une belle image ou une image qui représente un endroit où on est effectivement allé. Et c'est vrai que c'était aussi, j'avoue, c'était aussi une époque où on n'avait pas de photos instantanées. Enfin, parce que si on prenait des photos, donc avant le numérique et avant le Polaroid même, mais qui lui-même pas si ancien que ça, quoi, même s'il a été rendu obsolète très très vite lui, pour le coup. Mais c'est vrai qu'avant, vous preniez une photo, fallait la faire développer, fallait la faire tirer, et vous aviez si vous vouliez éventuellement envoyer votre propre photo à quelqu'un, ce qui était faisable effectivement, mais de faire sa propre carte postale. Et donc il y avait quand même ce ce métier des fabricants, ouais, de cartes postales, qui était de choisir en fait des supports qui plairaient ou qui surprendraient justement. Alors et on le sait bien, on a tous connu ça, des cartes postales qui sont extrêmement esthétiques, qui sont des œuvres d'art en termes photographiques, puis d'autres qui sont franchement, c'est de l'humour, bon ou mauvais, il y a un peu de tout. Et effectivement, il y avait vraiment une espèce de tenter de coller à quelle peut être l'intention de celui qui va l'envoyer, parce qu'elles, ouais, elles sont très multiples.
Oui, et puis il y a des personnes aussi qui écrivent la même chose sur 30 cartes postales, trace passe-partout, et puis qui envoient ça, voilà, c'est bon, j'ai envoyé mes cartes.
En espérant que les destinataires ne se les montrent pas.
Voilà, c'est ça, il vaut mieux qu'ils ne se connaissent pas entre eux, c'est sûr. Bon, voilà pour ce qu'on pouvait dire des cartes postales, en tout cas. Et Sophie, dans cette lettre, vous exprimez aussi vos émotions, j'ai trouvé.
Oui, c'est vrai. En fait, ce que je disais, c'est que l'écriture, c'est cathartique pour moi. Et en fait, j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, tous les jours, j'écris. Et en ce moment, j'écris un roman épistolaire.
Super.
Du coup, participer à ce concours, c'est un peu pour me booster ma confiance. Mmh. Parce que j'ai pas forcément confiance en moi. Et du coup, j'ai des cartons pleins de poèmes, de textes. Mais ils dorment chez moi, en fait. Et chaque fois que j'ai un ami qui vient, qui me dit « Est-ce que t'as écrit quelque chose ?» Je lui lis. Et il me dit « Mais qu'est-ce que t'attends ?»
Mais oui.
Et du coup, là, je me suis dit bah, « Allez, cette année, je vais participer à des concours pour voir ce que ça donne. Est-ce que ma prose plaît ?» Parce que je trouve que les amis, c'est sympa, mais je leur fais pas toujours confiance. Je sais pas, est-ce qu'ils disent que c'est bien pour me faire plaisir ? Du coup, je préfère que des gens que je connais pas. Donc cette année, j'ai participé il y a 2 mois à une veillée littéraire où j'ai lu mes textes et j'ai été ovationnée. Donc je me suis dit bon.
Super.
Bravo. Et j'ai participé aussi avec Morgane Hortin qui a écrit Amour solitaire. Elle proposait en fait pour la Saint-Valentin d'écrire une lettre d'amour. Et du coup, j'ai eu la surprise d'être sélectionnée parmi les lettres qui avaient été, que j'avais déposées à la librairie Albin Michel.
Je pense que c'est une bonne approche de faire ça, d'essayer des concours. Les amis, c'est un premier avis. Après, c'est bien aussi de se confronter à des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est bien de franchir le pas et de se lancer, d'essayer.
Voilà, donc je me suis dit, c'était un peu une victoire personnelle aussi.
Et puis aujourd'hui aussi.
Voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez, Hugues ?
Non, je crois que c'est important parce que c'est quelque chose effectivement qu'on observe régulièrement, dans des rencontres littéraires organisées en librairie, et quand on parle effectivement des parcours d'écrivains, il y a toujours cette ambiguïté, c'est qu'à un moment il faut bien effectivement se jeter à l'eau. Le regard des proches, aussi important soit-il, parce que sans cet encouragement, c'est quand même tout de suite un chemin salement solitaire, quand même.
Oui.
Donc c'est important que les proches, famille, amis, conjoints, soit un soutien. Mais c'est vrai que, qu'ils le veuillent ou non, à moins que ce soit des monstres froids d'une qualité exceptionnelle, il y aura une complaisance, il y aura une gentillesse qui va au-delà du raisonnable. Et c'est vrai que pour les écrivains ou les autrices, il y a une difficulté dans la confrontation, notamment au monde éditorial. Et c'est vrai que les réseaux sociaux regorgent en fait d'histoires toutes plus tristes les unes que les autres, où les gens se mettent à pleurnicher parce qu'ils ont reçu une lettre de rejet, parfois un peu effectivement brutale, parce qu'ils ont du mal à imaginer. Et je dis ça en toute gentillesse pour les autrices et auteurs, ou les aspirantes et aspirants, c'est que les éditeurs reçoivent vraiment beaucoup, beaucoup de textes. Et même quand ils sont très gentils, ce qu'ils sont pour l'énorme majorité, c'est vrai qu'ils ne vont pas tous prendre le temps de répondre de façon détaillée. D'autant plus que beaucoup d'autrices et d'auteurs font, et c'est normal, sont complètement focalisés sur leur texte, parce que c'est ça qui est important, mais ne font pas toujours la démarche d'accompagnement qui est, par exemple, de se renseigner un minimum sur le type de choses qu'est dite cette maison-là, quoi. Et on est toujours un peu surpris quand on voit le nombre de manuscrits qui sont effectivement envoyés, mais à l'aveugle, quoi. En arrosant. Et c'est un peu dommage, parce que ça coûte moins cher qu'avant, parce que maintenant, il y a de plus en plus sous forme électronique. Donc avant, il y avait au moins, effectivement, le prix de l'impression et du timbre qui limitait les envois. Maintenant, c'est moins le cas. Mais je trouve que il y a vraiment une démarche courageuse, quoi, dans l'autrice ou l'auteur qui va effectivement envoyer ses textes, affronter un regard extérieur qui, cette fois, sera curieux, normalement, si les gens font leur métier de... et ça commence effectivement par des jurys de concours jusqu'à des maisons d'édition, petites ou grandes. Mais C'est un regard, effectivement, qui est curieux, bienveillant au départ, mais qui peut perdre toute bienveillance en moins de 3 minutes. Hein, donc, et ça, c'est, je trouve ça très courageux.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que l'écriture, c'est aussi quelque chose qui peut être très solitaire, où on peut écrire juste pour soi, et c'est, je pense, complètement différent de décider de partager, d'écrire pour quelqu'un, soit pour moi, hein, soit on écrit pour soi et on garde les choses pour soi et on va écrire peut-être différemment, soit on écrit peut-être avec l'envie de partager ça avec quelqu'un. Alors, est-ce qu'on écrit différemment ou est-ce qu'on peut écrire pour soi et le partager avec quelqu'un? Je ne sais pas. Mais l'écriture, c'est aussi quelque chose qui permet de s'exprimer intérieurement, je pense.
Mais on avait évoqué cette question il y a 2 semaines à propos justement de cette chose un peu curieuse que sont les correspondances d'écrivains. Publié, avec une distinction assez forte en réalité entre des correspondances d'écrivains qui sont en réalité des appendices conçus comme tels ou presque de leur œuvre littéraire, c'est-à-dire des échanges presque techniques ou poétiques avec d'autres écrivains notamment, mais qui, dans le fond, ont vocation à être publiés un jour ou l'autre, enfin dans le rêve secret de l'écrivain, quand on est Paul Claudel ou Saint-Jean Perse, même si on ne va pas le dire quand on a 20 ans, une fois qu'on en a 45 ou 50 et qu'on est mondialement connu, on sait que sa correspondance sera un objet d'étude. Donc elle est écrite en fonction de ça, en réalité. Et donc, effectivement, il n'y a rien qui dépasse dans la correspondance de Saint-Jean Perse, d'autant plus qu'il l'a édité lui-même, avec parfois des petits biais déontologiques assez amusants. À l'inverse, il y a les correspondances d'écrivains qui rejoignent ce que tu disais, c'est qu'ils ne sont pas du tout faites pour être publiées. L'écrivain, quelqu'un comme Beckett, a résisté à son éditeur Jérôme Lindon pendant des années et des années en disant « Non, tu publieras jamais ma correspondance, c'est hors de question. » Et sur la fin, peu avant son décès, il a accepté de dire « Oui, mais à ce moment-là, uniquement celles qui ont un objet littéraire et certainement pas les courriers privés, puisque tout est ensemble dans des cartons. » Et puis ensuite, il y a des choses, et je pensais à l'exemple des lettres à Lou d'Apollinaire, les lettres d'amour en fait, à cette Louise, qui sera vraiment un amour... qui se transformera en fait en une forme d'amitié, puisqu'il sera toujours éconduit en fait, mais il y a quelque chose de très très fort, mais pas une seconde Apollinaire n'a imaginé que ça serait publié dans des volumes dans la collection L'Imaginaire. C'est vraiment une intimité mise sur la table, pas du fait de l'auteur, lui il y est pour rien, et c'est quelque chose d'assez étonnant. Et alors, bien pire que ça, il y a les fameuses lettres de James Joyce à sa femme, à celle qui est devenue sa femme, qui sont des lettres d'une crudité et d'une obscénité rares. Quoi. Et là aussi...
C'est très personnel. Quoi.
Et puis c'est certain qu'il n'avait pas imaginé une seconde, l'auteur d'Ulysse ou de Finganswek, que ça serait publié un jour. Quoi. C'était vraiment du courrier privé. Donc il y a quelque chose de très étonnant quand quelque chose qui était de l'ordre de la sphère privée, qui était vraiment écrit pour soi, ou pour une autre personne, devient, par la magie de l'industrie éditoriale, de l'exégèse, devient finalement un objet littéraire public X années plus tard. Et je trouve ça, oui, il y a un côté un peu inquiétant. Enfin, en même temps, on parle effectivement des problèmes de vie privée et électronique. C'est marrant que des écrivains du passé, donc y compris du XXe siècle, dans toutes ces problématiques, se soient retrouvés d'une certaine façon victimes, alors généralement après leur décès. Donc, ça doit faire moins souffrir, on peut supposer, que si c'était de son vivant, que c'était révélé. Ou là, je pense qu'il y aurait eu quelques situations probablement un peu difficiles.
Voilà, comme les problèmes de mails dévoilés sur Facebook, etc. Vous, Sophie, quand vous écrivez, vous le disiez tout à l'heure, vous vous adressez aux membres du jury pour cet exercice-là. Oui. En général, quand vous écrivez, est-ce que vous vous adressez à quelqu'un? Est-ce que vous écrivez pour vous ou les deux?
Ça dépend, en fait. Enfin, vous voulez dire...
Par exemple, dans le cadre du livre que vous préparez, est-ce que c'est un livre dans lequel vous êtes mis un cadre avec un exercice particulier, ou est-ce que vous écrivez pour vous un peu comme une thérapie ou...
Alors c'est un peu les deux. On va dire que c'est après une rupture que j'ai décidé de faire ça. Et en fait l'histoire c'est une fille qui vient de se faire larguer et qui imagine qu'elle est déjà remplacée. Et du coup elle se dit il va y avoir une prochaine. Et elle écrit des lettres à la prochaine. Mais comme elle sait pas qui c'est, elle écrit « Chère prochaine » et elle raconte en fait l'histoire son histoire avec son ex.
Pour rebondir sur ce que disait à l'instant Sophie, je pensais justement, il y a un autre type de lettres que les lettres authentiques d'écrivains ou celles qui ont été intégrées dans une fiction épistolaire d'ensemble, donc avec un échange de lettres au long cours. Il y a effectivement les lettres fictives qui sont créées dans un but littéraire et ludique. Et un très bon exemple, c'est Gilles Marchand, qui est maintenant connu pour ses romans, qui ont eu beaucoup de succès, ses romans publiés aux Forges de Vulcain et repris en poche chez Point Seuil, mais qui, avant, pendant et encore aujourd'hui, est aussi un grand écrivain de nouvelles et de textes courts. Alors, il écrit principalement des nouvelles, mais un de ses tout premiers recueils publiés, il y a maintenant presque 8 ans, s'appelait « Dans l'attente d'une réponse favorable », et c'est 24 lettres de motivation. Mais ces lettres de motivation sont adressées, en fait, c'est profondément surréaliste et ludique, puisque les destinataires de ces lettres sont, par exemple, au patron du Balto, au trentenaire, au pluriel, au ministère de la Recherche, à mon fils, à mes amis, au ministère de l'Écologie et de l'Environnement, à Dieu. Enfin, donc il y a toutes sortes d'interlocuteurs. Et effectivement, ces lettres sont... aucune ne se ressemble, il n'y a pas de format général, puisque ça dépend vraiment de l'interlocuteur et de ce qu'on veut lui demander. Donc c'est quand même généralement des lettres de motivation, donc pour postuler à un poste qui existe ou qui n'existe pas, dans certains cas. Et Gilles Marchand fait ça avec effectivement beaucoup d'humour et ce qu'il a toujours eu dans son écriture, enfin une espèce de poésie intérieure en fait, qui vient travailler l'absurde de la situation, quoi. Et notamment quand... par exemple, il fait une contre-lettre de motivation, en tout cas c'est comme ça que n'importe qui la jugerait, en s'adressant, c'est la seule qui s'adresse à un directeur des ressources humaines de tout le recueil, et celle-là effectivement elle est particulièrement gratinée, puisque c'est presque une démonstration de ce qu'il ne faudrait pas mettre dans une lettre de motivation, et pourtant ça obtient un effet assez bizarre en fait à la fin. Donc je pensais à ça, qu'effectivement la lettre et n'est pas seulement une composante en fait d'un travail, mais une œuvre littéraire à part entière en fait, potentiellement sous forme effectivement d'une nouvelle en réalité. Enfin...
Un aspect dont on n'a pas parlé, c'est la structure des lettres qui évolue aussi d'une certaine façon. Parce que à l'époque, c'était très très précis sur la structure, et puis effectivement d'une lettre à l'autre, d'un thème à l'autre, ça varie, Hugues. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que avec le mail et tout ça, ou même les lettres, ça change un petit peu tout ça.
Oui, puisque la vôtre, par exemple, passait par plusieurs moments rhétoriques assez différents, et en réalité très travaillés, puisque ça finit par quasiment un exorde. Chers membres du jury, écrivez des lettres avec un point d'exclamation, c'est un ordre. Et on a intérêt à obéir. Donc, et effectivement, il y a une gradation de la tonalité, de l'usage en fait, des figures qui sont à l'œuvre, et pour finir, effectivement, par une formule de politesse et de complicité, en fait, puisque ça finit par épistolairement vôtre. Voilà, on l'a entendu tout à l'heure.
Bon, on vous invite une nouvelle fois à l'écouter dans son intégralité. Une lettre, ça se lit ou ça s'écoute en entier. Et puis, nous avons donc trois autres gagnantes, si je puis dire. Estelle Charmet, qui s'est écrit à elle-même dans le style, depuis le Père Lachaise. Odette Cobana, également, dans un style, je ne sais pas ce que vous en pensez, Hugues, assez formel dans la structure. Elle indique même le nombre de signes à la fin du courrier.
Oui, c'est très professionnel, mais puis avec une intention assez particulière, qui est en fait une lettre qui est pourtant écrite par l'autrice, mais qui est un plaidoyer en fait en faveur des mots qui sont malmenés en fait dans les lettres. Pas seulement dans les lettres, qui sont malmenés de façon générale, et notamment dans les fake news. Et c'était effectivement un texte assez curieux, dans une sorte de plaidoyer en fait à l'intérieur d'une missive.
Et pour revenir sur le texte de Sylvie, elle s'adresse dans sa lettre à une lettre, justement, la lettre N. Il faut peut-être lire sous forme de mot, du coup, la N. Elle termine par le D apostrophe, ou plutôt la D prime. C'est assez original. On y trouve aussi une énumération de mots sous forme de liste, à un moment donné. C'est un exercice de style plutôt intéressant.
Et qu'on va d'ailleurs pouvoir écouter...
dans son intégralité.
Intégralement, pour conclure, en fait, cette émission.
Absolument.
Donc merci beaucoup Sophie d'avoir accepté de vous joindre à nous. Je voulais absolument citer Dans l'attente d'une réponse favorable de Gilles Marchand, donc 24 lettres de motivation aux éditions Antidata. Les éditions Antidata, de toute façon, c'est vrai, j'en parle souvent dans cette émission, parce que c'est un des rares éditeurs qui se dédie à la forme courte, et c'est suffisamment rare en France, à la différence de plusieurs autres pays, pour mériter d'être signalé, parce que, et on parlait tout à l'heure notamment dans une optique d'encouragement et de fournir des terrains d'essai, des terrains de manœuvre en fait aux jeunes autrices et aux jeunes auteurs. C'est vrai que les éditeurs de forme courte sont particulièrement précieux parce que c'est, même si c'est effectivement une écriture qui est différente et la nouvelle n'est en rien, ou texte court en rien, quelque chose d'inférieur au roman, mais c'est évidemment plus facile de se lancer en fait sur des distances un peu plus courtes. Et à chaque fois que des éditeurs encouragent ça, je pense qu'il faut à notre tour en tant que lectrice et lecteur les encourager également.
Absolument, merci Hugues pour ces bons conseils. Et puis j'aimerais remercier également Willigan qui a réalisé cette émission, et Charles Ferry qui s'occupe souvent également de la technique. On écoute la lettre.
Cher N, si j'ai décidé de me remettre à écrire, c'est grâce à toi. Tu réponds tellement à mes besoins émotionnels et à mes exigences techniques. Tu es tout à la fois matériel et virtuel. Oh, note, je peux te toucher, mais tu ne te tâches pas, tu ne t'uses pas. Installé sur mon smartphone, tu es toujours à mes côtés, car ma vie désormais tourne autour de cet objet qui a l'intelligence de te mettre à disposition 24 heures sur 24, tout en t'enregistrant sur un nuage pour te sauvegarder. À la moindre fulgurance, je peux te dégainer discrètement, car alors je pourrais tout aussi bien être en train de dégommer des bons becs ou me désinscrire d'une intempestive newsletter que mon voisin de métro n'en saurait rien de plus. Quelle discrétion, quelle disponibilité. Ma vie 2.0 est riche. Réseaux sociaux, podcasts, presse en ligne m'abreuvent d'informations. Mon cerveau sans répit te sollicite pour se décharger et aider ma mémoire et ma concentration. Grâce à toi, j'ai tout le loisir de collecter des extraits, des citations, des liens. Tu dates toi-même, et mieux, tu horaires automatiquement. Tu me sers de brouillon, un brouillon de SMS qui m'évite d'envoyer le mot ou l'émoji de trop. Plus de ratures ni d'actes manqués, une intention propre et polissée. Tu es mon journal très intime, tu recueilles mes errements de pensée. Parfois, je te croise dans ma messagerie, car tu en es parti. Tu me surprends. Je relis alors avec délice ou pitié mes élucubrations tortueuses entre deux confirmations de changement de mot de passe ou autres transferts, forward, transfert, transfert. Note. Tes cinq lettres sont une invitation à la rêverie laroussienne. Addition, analyse, annonce, annotation, apostille, appréciation, ardoise, hospice, avertissement, avis, bordereau, cachet, caractère, charge, coche, commentaire, communiqué, compte, compte-rendu, considération, cote, critique, degré, détail, douloureuse, écrit, élément, esquisse, évaluation, exégèse, explication, facture, glose, griffe, indication, information, journal, lettre, memento, mémoire, mémorandum, message, morceau, nota, notation, notice, notule, observation, papier, pensée, post-scriptum, préface, présage, proclamation, publication, quantification, rapport, récit, réflexion, remarque, renvoi, repère, scoli, son, ton. Note, tu es la forme ultime de praticité. Je n'ai pas eu à recopier lettre à lettre la longue liste de tes synonymes. J'ai juste enchaîné des appuis, plus ou moins longs, de mon index sur l'écran, sur cette surface lisse et froide. Et je dois bien reconnaître que c'était ennuyeux. Et tu dois bien reconnaître mon forfait. J'ai abandonné la mise en page. Te voilà avec une banale et informe liste. Me voici avec un constat primordial et triste. Je crois que je ne fais que muscler mon doigt en fin de compte. Est-ce pour cela que j'ai décidé à me remettre à écrire ? Au lieu de choisir, critiquer, nuancer, approfondir, soupeser, sentir chacun des mots ? Note bien. Je vais presser le bouton central du téléphone, ouvrir ma trousse pleine d'encre et de trous, attraper une feuille au vol et t'écrire une autre lettre. Déprime. Adieu.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.